Bienvenue dans ce nouveau numéro du Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Un numéro aujourd'hui consacré aux cellules photovoltaïques, vous savez, ces petits rectangles bleus qui composent nos panneaux solaires. Un tour d'horizon de l'innovation dans la recherche rennaise vous sera proposé durant 25 minutes, suivi d'une courte visite d'une chambre blanche dans les laboratoires Photon. Jacques Yévin et Olivier Durand sont professeurs à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes et physiciens en ce qui concerne la recherche au sein de ce laboratoire. Mais au fait, comment un rayon de soleil est-il traduit par une cellule photovoltaïque en apport énergétique ?
Le rayonnement lumineux est composé de photons. Donc ces photons sont absorbés et l'absorption d'un photon libère des électrons dans la matière. Et donc ces électrons peuvent participer à un courant électrique et donc on peut obtenir une puissance électrique en sortie de la cellule. Donc la cellule absorbe, donc il s'agit avant tout d'un absorbeur. Puis ensuite, il faut des contacts électriques pour récupérer les électrons sous forme d'un courant électrique et donc d'une puissance électrique. Les filières du photovoltaïque se traduisent essentiellement en filière matériaux. On parle de matériaux absorbeurs. Jacques a parlé tout à l'heure du tellurure de cadmium, qui est dans ce cas-là aussi l'absorbeur. Avec l'avantage, c'est de pouvoir avoir beaucoup moins de matériaux que le silicium, et puis un absorbeur qui est déposé sur un support bas coût, et avec des épaisseurs 100 fois moins importantes que pour le silicium. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle des concepts avancés, des filières qui ne sont pas du tout commercialisées, qui sont voire même à l'état de concept pour, on l'espère, des filières du futur du photovoltaïque.
Le marché du photovoltaïque, donc les panneaux, est dominé par le silicium. Vous avez aussi des cellules haute performance qui associent plusieurs matériaux entre eux, donc ça a déjà été utilisé depuis très très longtemps. C'est en fait des cellules qui sont relativement chères. Et puis vous avez le développement de filières bas coût en fait, avec des matériaux organiques par exemple. Donc ça, c'est plus à l'état de promesse, si j'ose dire. Alors vous avez quand même aussi une quatrième filière à base de cadmium et tellure, en fait, qui elle est industrielle, mais qui est surtout produite aux États-Unis.
Ce sont des avancées qui ont débuté quand ?
La filière silicium, elle est extrêmement ancienne, elle date d'à peu près 60 ans, je pense. Dans la filière photovoltaïque, ce qui est intéressant, c'est de voir l'énergie produite pendant toute la durée de vie du panneau, c'est-à-dire de la fabrication, de la cellule, de l'intégration dans le panneau, de l'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la maintenance et des choses comme ça, et jusqu'au retraitement. Donc en fait, toutes les filières énergétiques sont maintenant comparées de cette manière. Hein. Et donc dans les années 50-60, il était assez évident que le coût de fabrication était déjà très élevé. Donc en fait, ce n'était pas rentable. Donc ça a été très très nettement amélioré. Je pense qu'on a gagné au moins un facteur 150 à peu près depuis cette période-là sur le coût des cellules. Si on intègre tous les coûts de fabrication, de la conception jusqu'au retraitement, les filières photovoltaïques sont maintenant complètement concurrentielles. Mais c'est la filière silicium qui est partie de très très loin. Et les autres filières sont beaucoup plus récentes de ce point de vue-là.
Et la filière silicium, au début, c'était dans le domaine spatial. Donc c'est le domaine spatial qui a tiré vers le haut cette filière avec tous les crédits, hein, c'est-à-dire mettre des panneaux sur les satellites. On a eu une filière qui a pu exploser du fait des crédits dans le spatial.
Est-ce que chaque cellule a un apport énergétique semblable à celle à sa voisine, par exemple ?
Pour un matériau, c'est à peu près 30% de rendement. On peut classer les filières vis-à-vis de cette limite physique de 30%. Donc si vous prenez la filière silicium actuellement, les cellules de laboratoire sont autour de 25% et dans les panneaux qui sont produits par Total, qui est l'industriel au niveau mondial, qui est en tête. Pour ce qui est des cellules de très haute qualité, on est au-delà de 20%. Donc c'est très très bien. Donc en fait, on va dire que la filière silicium a encore des marges de progression, mais n'est pas très très loin des limites physiques. Et puis vous avez des filières comme l'arsénure de gallium, qui est un autre semi-conducteur, qui lui s'en rapproche très fortement, doit être autour de 28-29%. Par contre là, c'est un matériau très très cher. Donc l'enjeu en fait maintenant, ça va être soit trouver un matériau plus facile à utiliser ou moins cher que le silicium, même si le silicium est déjà pas très très cher, pour monter au voisinage de 30%, mettons 25%, soit associer un matériau avec le silicium pour pour passer cette barrière de 30%. Alors on sait déjà, puisque ça a déjà été démontré, qu'on peut monter pratiquement jusqu'à 45% en associant plusieurs matériaux. Donc ça c'est plus des démonstrations, bien sûr c'est des empilements qui restent assez chers. Donc il y a deux objectifs, soit avoir du bas coût avec des rendements de l'ordre de celui du silicium, ou alors avoir plusieurs matériaux qui permettent de passer au-delà de 30% en restant avec des coûts similaires à celui du silicium.
Mais quelles sont les propriétés physiques du silicium ?
Alors le silicium c'est le matériau roi qui domine le marché de l'électronique, hein, c'est dans le PIB mondial, je crois qu'on est de l'ordre de au moins 10% du PIB mondial qui dépend directement du silicium. C'est une filière extrêmement maîtrisée, c'est un matériau qui a des tas d'avantages du point de vue technologique, c'est un matériau courant et abondant. Il a juste un défaut pour le photovoltaïque, c'est qu'il absorbe assez peu. C'est un mauvais absorbeur. Donc pour faire des cellules photovoltaïques à base de silicium, il faut prendre de grandes épaisseurs. Alors quand on parle de grandes épaisseurs, on parle de quelques centaines de microns en fait. Mais les nouvelles filières, bas coût sur lesquelles nous on travaille notamment, c'est là on parle de plusieurs dizaines de nanomètres, donc on est un facteur 1000 en dessous. Donc c'est ça les enjeux, c'est avoir des très bons absorbeurs tout en ayant toutes les qualités du silicium, c'est-à-dire le bas coût, les bonnes propriétés de conduction électrique, etc.
C'est quoi le mieux finalement ? C'est d'avoir plusieurs panneaux les uns à côté des autres pour plus de rentabilité énergétique, ou alors d'avoir justement, comme vous le dites, des panneaux avec des cellules plus épaisses ?
Dans le coût du photovoltaïque, pour le particulier, si j'ose dire, ou dans une ferme solaire, en fait, il y a le coût de la cellule, mais il n'y a pas que le coût de la cellule. Il y a aussi le coût de l'entretien, le coût du génie civil, s'il y a du génie civil à faire. Il y a le coût du câblage, s'il faut passer des câbles dans les bâtiments, etc. Donc, la cellule photovoltaïque représente, alors d'après les chiffres que j'avais vus, c'est de l'ordre de 50% à peu près du coût de l'électricité produite. Et donc les projections montrent que à l'horizon 2020-2030, ça représentera un coût plutôt mineur. Ça ne représentera plus qu'un tiers à peu près du coût de l'électricité produite. Donc il y a des tas d'autres problèmes, bien entendu. Et notamment le fait que le mettre du photovoltaïque chez le particulier, c'est pas forcément la solution optimale, ne serait-ce que de l'entretien. Oui. Donc les fermes solaires, c'est peut-être plutôt l'avenir. Et voilà. Donc il y a des projets industriel, pas tellement en France, mais plutôt dans l'hémisphère sud, autour des fermes photovoltaïques.
Justement, en France, c'est quelque chose qui est développé, cette commercialisation.
La France a un peu pêché vis-à-vis du photovoltaïque, parce que le nucléaire est un peu la marque de fabrique de la France, et c'est aussi quelque chose de commercial qui est mis en avant. Hein. L'énergie produite en France provient seulement à 3% du photovoltaïque. On est à des chiffres supérieurs, on est autour de 10% dans des pays nordiques ou en Allemagne, par exemple. Avec la COP21 et les objectifs qui sont donnés, là, on devrait quasiment multiplié par 5 le photovoltaïque en France. Les marchés sont dans l'hémisphère sud. Donc l'Inde, par exemple, c'est un pays qui a d'énormes besoins énergétiques, qui a en même temps un réseau électrique qui n'a pas du tout le niveau du réseau électrique en France. Donc là, une électricité produite sur place et indépendante du pétrole a tout son rôle à jouer, mais il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça maintenant. Donc il y a des industriels français qui vont installer des fermes solaires dans ces pays. Et donc ça va être important parce que ça va aussi amener une réduction des coûts et par ricochet, je pense que ça aura un impact sur ce qui va se faire en France après.
Dans nos pays, on compare le coût de l'énergie produite par le photovoltaïque avec le coût de l'énergie du réseau actuel, l'électricité. Donc actuellement, dans le sud de la France, on arrive à la parité avec le réseau. Ça devient intéressant d'installer du photovoltaïque. Par exemple, en Italie, où le coût de l'électricité est relativement important, on a aussi intérêt à installer du photovoltaïque. Donc ce qui compte, c'est cette comparaison avec le coût de l'électricité. Et donc, sous certaines conditions, on arrive à la parité actuellement avec le réseau.
Étonnant de savoir que justement ce sont les pays nordiques qui profitent le plus de l'énergie solaire plutôt que les pays du sud, alors que pourtant le taux d'ensoleillement dans les pays nordiques n'est pas forcément plus grand que dans ceux des pays du sud.
Le cas de la France est assez particulier puisque le nucléaire ça fait partie de la politique commerciale de la France, donc il est évident que la promotion s'est plutôt tournée vers ça. Mais on a une meilleure ressource aussi du point de vue éolien que dans ces pays-là. Et pourtant l'éolien est plus développé dans les pays nordiques, voire même en Allemagne. Donc maintenant l'hydrolien aussi a un énorme potentiel au niveau français, donc il y a d'autres choses que le photovoltaïque qui vont être amenées à se développer, mais c'est un problème de volonté et politique et aussi de la façon de penser les choses. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit, vous avez une étude à faire et vous posez un compteur et vous revendez l'électricité à EDF. Donc ça, c'est un peu contraire à la façon dont il faudrait utiliser l'électricité photovoltaïque, puisque l'électricité photovoltaïque est produite localement, il faudrait l'utiliser au maximum localement, et la remettre dans le réseau, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc il y a d'autres pays qui ont adopté d'autres modes d'utilisation du photovoltaïque, voire même d'autres modes de commercialisation. Donc aux États-Unis par exemple, certaines sociétés achètent les panneaux photovoltaïques et proposent de les poser sur les toits des particuliers. Donc les particuliers n'ont pas à faire l'investissement initial. Du coup, en fait, c'est plus acceptable. Et par contre, ils rachètent l'électricité qui est produite sur leur propre toit à des tarifs préférentiels. Donc c'est des modèles économiques qui sont différents. C'est aussi une utilisation qui est différente. C'est sûr que si on produit localement de l'électricité, il vaut mieux l'utiliser localement, donc avoir une électronique intelligente, c'est-à-dire qu'au moment où vous produisez de l'électricité au milieu de la journée, votre machine à laver la vaisselle devrait se mettre en marche automatiquement. Voilà, l'électricité partagée localement dans un réseau, sur un quartier, des choses comme ça. Donc c'est un peu une révolution aussi dans les usages en fait, qu'il faudrait faire, et certains sont plus avancés que les Français.
Est-ce que la pollution atmosphérique peut-elle avoir un impact sur le taux d'ensoleillement? Par exemple, je pense en Chine, on n'est pas sans savoir qu'il y a des nuages de pollution. Est-ce que là-bas, en Chine par exemple, ça pourrait marcher?
La plupart des plus gros producteurs de cellules photovoltaïques sont chinois.
Hein. Nous, avec Olivier Durand, on le sait très bien, on a des étudiants chinois qui sont en thèse et qui sont payés par le gouvernement chinois pour travailler dans notre laboratoire. Donc là, c'est vraiment une préoccupation. Hein. Donc le problème devient crucial en Chine et ils n'ont pas d'autre solution que de passer au solaire. Après, le solaire, ça fonctionne même si vous avez des nuages. Hein. Ça fonctionne un peu moins bien, mais il y a des solutions qui sont adaptées à ça. Mais en tout cas, ils n'ont pas d'alternative. Et donc la Chine fait partie des pays qui développent le plus le photovoltaïque actuellement au niveau mondial. Sun, who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun, who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
On parle en ce moment des drones qui pourraient, dans un futur récent, pouvoir recharger les cellules photovoltaïques. Est-ce qu'on fantasme ?
Non, les cellules photovoltaïques produisent de l'électricité, il faut éventuellement la consommer directement. Mais après, il faut un système de stockage. Donc là, les systèmes de stockage actuels, c'est essentiellement des batteries. Bon, pour des choses comme les drones, il faut utiliser directement dans un moteur électrique l'électricité qui est produite et avoir des batteries. Mais les batteries, ça pèse très très lourd. Donc il vaut mieux éviter, même si on sait que en fait, les prix des cellules photovoltaïques diminuent au fur et à mesure que le volume de production augmente. Et comme il y a une expansion du domaine, on est certain que les prix vont continuer à chuter. Donc c'est le seul domaine en fait où ça se passe. Et en fait, vous avez une courbe qui est parallèle au niveau des batteries. Donc il y a énormément de progrès qui sont faits sur les batteries, et notamment les coûts sont en train de baisser. Après, le problème du stockage ultérieurement, ça sera peut-être probablement basé sur une technologie hybride où l'électricité produite par une cellule photovoltaïque sera immédiatement couplée avec de la production d'hydrogène. L'hydrogène étant réutilisé sous une autre forme.
En ce qui concerne les drones, qui fonctionnent avec des capteurs hein, pour capter de l'information, ces drones doivent avoir des batteries pour faire fonctionner ces capteurs. Et l'idée, c'est d'utiliser aussi l'énergie photovoltaïque pour justement réduire cette partie, avoir des capteurs qui tendraient à être des systèmes autonomes de manière à réduire le poids des batteries.
On va évoquer le recyclage. Comment en France le recyclage des cellules photovoltaïques est-il traité ?
L'émergence d'une nouvelle filière photovoltaïque se fait avec un accompagnement en ce qui concerne le recyclage. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit d'une solution complète qui doit tenir compte d'une filière de recyclage. On ne peut pas maintenant proposer une nouvelle filière sans proposer le cycle entier qui concerne aussi le recyclage.
Alors c'est évident, ça existe, même si je ne connais pas trop les détails. Et on sait aussi qu'il y a une partie du silicium qui sert à fabriquer les panneaux photovoltaïques qui est en fait lui-même du recyclage du silicium qui provient de l'industrie microélectronique. Les normes européennes notamment sont extrêmement drastiques vis-à-vis de ça. Donc il y a évidemment du recyclage qui est fait.
Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui pourraient être pris en compte pour l'élaboration, la fabrication de cellules photovoltaïques ?
Au laboratoire Photon, on travaille sur des nouveaux matériaux. Alors, d'une part parce que Total par exemple ou les industriels comme ça font de la R&D sur les filières existantes et ils le font très très bien. Hein. Et d'autre part parce que pour avoir de nouveaux résultats, c'est plus facile quand même sur des nouveaux matériaux. Mais si vous prenez par exemple la filière sur laquelle on travaille, qui est une des filières qui a émergé depuis 3 ans, la filière des pérovskites, en fait, les industriels gardent un œil là-dessus à tel point, par exemple, qu'on va co-encadrer une thèse avec Total sur ce sujet. Donc c'est plus de la veille pour l'instant. Mais si les résultats qu'on obtient, nous, mais toute la communauté internationale là-dessus, deviennent vraiment prometteurs, les industriels prendront leur part au développement. Donc ça, c'est un exemple de filière où il y a tous les problèmes actuels. Donc on a démontré l'efficacité du matériau au niveau de l'absorption. Les propriétés physiques sont très prometteuses. Après, là, on est plutôt dans la phase de la fiabilisation, c'est-à-dire notamment est-ce que les cellules vont tenir dans le temps. Est-ce qu'on va pouvoir les encapsuler pour résister à l'humidité ? Est-ce qu'elles résistent à l'irradiation puisqu'on les met sous le soleil, donc il faut que le matériau ne se dégrade pas sous le soleil ? Est-ce qu'on peut comprendre par la physique et puis par l'analyse tout ce qu'on déploie au niveau du laboratoire photon, est-ce qu'on peut améliorer la compréhension ? Et du coup, après, améliorer les process, faire des propositions. Alors on travaille, nous, sur différents aspects, mais on travaille aussi avec des gens qui fabriquent des cellules et qui sont au niveau de l'état de l'art mondial. Donc a priori, ça c'est un exemple de filière prometteuse, mais il y en a d'autres, je pense qu'Olivier peut...
Alors d'abord, concernant la filière pérovskite hybride, c'est une classe de matériaux qu'on appelle pérovskite. Il se trouve que en utilisant ces matériaux, on est en face de ce qu'on appelle une véritable révolution dans le domaine en ce qui concerne les rendements de laboratoire pour l'instant. Les rendements, donc le rapport entre la puissance électrique obtenue par rapport à la puissance lumineuse incidente. Ces rendements ont explosé ces 3-4 dernières années pour passer grosso modo de 5% de rendement à des rendements supérieurs à 20%. Donc là, on vient titiller les rendements du silicium. Et ce, en seulement 3 ou 4 ans, alors que pour le silicium, ça a pris plus de 20 ans. Donc c'est une véritable révolution. C'est encore un objet de laboratoire, puisqu'il y a un certain nombre de problèmes encore à résoudre. Il y a déjà des gens qui songent à des commercialisations pour certaines applications. Donc on a parlé tout à l'heure des concepts qui jouent sur l'association de plusieurs absorbeurs, ce qu'on appelle des multijonctions. Des multimatériaux où chaque matériau est spécialisé dans l'absorption d'une partie du spectre lumineux. Donc dans cette filière, Jacky en a parlé, on arrive pratiquement aux 50% de rendement de laboratoire avec des commercialisations. Ces multimatériaux sont commercialisés. Alors les records commerciaux, industriels, ne sont pas les records de laboratoire. C'est un petit peu en dessous, mais on dépasse quand même nettement le silicium. Et on joue toujours sur deux aspects. L'augmentation du rendement et puis la baisse des coûts. On essaye de jouer sur les deux tableaux. Et pour la baisse des coûts, eh bien, ces multijonctions sont utilisées avec des lentilles qui viennent concentrer les rayons lumineux de manière à utiliser moins de matériaux. Et donc on va jouer là-dessus pour avoir moins de matériaux et donc avoir des cellules qui coûtent finalement moins cher, mais avec un système quand même de concentration. Ce type de panneau peut être vu, hein, traverser certaines régions comme par exemple l'Espagne, et vous avez des champs de panneaux avec concentration. Et puis donc dans le laboratoire, on développe aussi, alors en partenariat avec d'autres laboratoires en France, hein, puisqu'on travaille forcément sous un mode collaboratif avec des laboratoires référents dans le domaine qui sont spécialisés uniquement dans le photovoltaïque. Hein, avec eux, on va développer des nouveaux concepts de photovoltaïque. Alors là, on n'a pas du tout de rendement, c'est encore à l'état de concept, et on étudie la faisabilité de ces concepts avec l'idée toujours directrice, c'est d'aller au-delà du rendement théorique limite d'une cellule avec un matériau. Donc c'est l'idée directrice.
Est-ce que dans votre domaine, Rennes rayonne-t-il à l'étranger ? Est-ce que vous exportez votre savoir dans d'autres pays ?
Quand on a un sujet qui marche très très fort comme ça, ça veut dire travailler avec des laboratoires partout dans le monde en fait, et passer plusieurs mois par an à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence sur ce sujet-là. Bon, évidemment, il faut avoir les crédits pour le faire, mais là, dans ce cas-là, lorsqu'on a une reconnaissance, on est également invité par les Américains. Donc ça, c'est la situation idéale. Il faut évidemment avoir des résultats qui intéressent la communauté.
Donc là, plusieurs choses. Bien évidemment, nous avons des présentations dans des conférences internationales. Certaines sont des présentations invitées. Et nous sommes aussi en mode collaboratif et nous collaborons avec des laboratoires à la fois européens et puis des laboratoires aux États-Unis, au Japon. On a un rayonnement qui est à l'international. Donc l'idée, c'est d'avoir des résultats qui font l'état de l'art. Et à partir du moment où vous avez des résultats qui font de l'état de l'art et que vous les communiquez, eh bien vous avez des laboratoires qui sont intéressés et puis la collaboration s'installe de manière concrète avec des échanges d'informations, des échanges d'échantillons et des échanges de compétences qui sont complémentaires. Voilà. Et donc les laboratoires, pour fonctionner, n'ont pas tous les compétences sur site et ont besoin de compétences qui sont à l'extérieur. Les collaborations se montrent sur la complémentarité de ces compétences. La Bretagne, en particulier dans le domaine de la photonique, est labellisée au niveau européen et donc au niveau aussi mondial en ce qui concerne la photonique. Les régions françaises ont, on va dire, des labels qui sont reconnus et qui sont reconnus en particulier au niveau européen et par rebond aussi au niveau mondial. Donc la photonique est un label reconnu à l'international de la région Bretagne.
Quels sont vos prochains projets, si ce n'est déjà les avancées déjà faites dans votre recherche ?
Les prochains projets, ça s'inscrivent complètement dans ce qu'on vient de dire finalement, alors de manière générale, dans toutes les activités du laboratoire photon et dans le domaine du photovoltaïque. Nous avons trois axes, donc un axe pérovskite hybride. Je parle toujours là ici du photovoltaïque où eh bien, nous avons commencé à faire des réalisations pour pouvoir produire des cellules photovoltaïques à base de ces matériaux. Autre axe, l'axe où on va associer plusieurs matériaux absorbeurs, et donc on est en train de mettre au point des cellules à base de matériaux 3,5, bon absorbeur de lumière, sur le silicium, et faire des cellules, ce qu'on appelle des cellules tandem, où on associe ces deux types de matériaux pour dépasser la limite physique du silicium. Et puis un troisième axe, qui est un axe plus concept avancé, où on travaille sur alors un concept qu'on appelle les porteurs chauds, donc dit comme ça, ça veut pas dire grand chose, mais c'est considéré comme un concept du futur où on n'a pas encore du tout là de cellules, simplement on est en train de montrer, de faire une étude de faisabilité de ce type de cellules en association avec à la fois l'IRDEB dont j'ai parlé tout à l'heure et puis un laboratoire international associé qui est au Japon, le NEXPV qui est au AirCast au Japon.
Dans mon cas, moi, je suis plus opérationnel qu'Olivier Durand, qui est le directeur de l'équipe. Moi, ça va être une tournée aux États-Unis pendant 2 mois, où ça va être de San Francisco. Ça vous fait rêver un peu, peut-être. Los Alamos, San Diego, et on va terminer par Phoenix pour revenir.
Et puis, j'observe avec plaisir que du côté de ma fenêtre, nous avons un beau soleil qui est vraiment apte à produire beaucoup d'électricité pour les photovoltaïques.
Ce numéro du Labomatique s'achève, une émission consacrée à la recherche sur les cellules photovoltaïques en compagnie des professeurs et physiciens Jackie Evin et Olivier Durand, que nous remercions pour leur participation et leur disponibilité. Nous clôturerons ce programme avec ce dernier par la visite d'une chambre blanche, véritable entraille de la recherche du photovoltaïque au sein du laboratoire photon.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
On est juste devant une pièce où il y a un tas de machines métalliques et des gens en blouse blanche qui travaillent. On est où exactement ?
Les personnes sont en blouse blanche parce que c'est une salle qu'on appelle une salle blanche. C'est-à-dire une salle qui a une atmosphère propre, de manière à ce que sur les supports, on appelle substrat, eh bien ces supports soient le plus propre possible. On peut imaginer par exemple des poussières se déposant sur un substrat. Vu la taille des composants qu'on va faire, la poussière c'est absolument rédhibitoire. Donc il faut travailler dans une atmosphère qui est parfaitement propre. Et donc on ne peut pas y entrer parce que la propreté est contrôlé et puis les gens travaillent en blouse pour émettre le moins possible de entre guillemets de pollution à l'intérieur de cet environnement. Ici, les lumières ont été éteintes parce que on a besoin de regarder sur des écrans. Donc ces appareils sont en fonctionnement et déposent des matériaux pour des applications données. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a certainement des structures qui ont pour vocation à devenir soit un laser, soit un photovoltaïque qui sont en train d'être construits. Ici, les appareils, ce sont des appareils de dépôt de matériaux en couche mince, qu'on appelle des bâtis d'épitaxie par jet moléculaire. Et ces bâtis donc, permettent le dépôt de matériaux couche atomique par couche atomique. Donc on arrive à la fois avoir une pureté parfaitement contrôlée du matériau, des épaisseurs contrôlées à l'échelle mieux que le nanomètre. La partie qui est à droite ici, vous avez en fait, on peut la diviser en deux, ce qu'on appelle un cluster de croissance, avec un bâti pour l'élaboration des matériaux pour l'optoélectronique, les matériaux 3.5, et un bâti pour l'élaboration du silicium à droite. Ils sont reliés sous ultravide par un tunnel ici, de manière à passer de l'un à l'autre. Et puis, on peut passer d'un matériau à un autre avec une interface parfaitement définie entre ces deux matériaux. Et donc, finalement, on est un petit peu au cœur de l'élaboration de nos composants, avec ici la couche véritablement matériaux et hétérostructure de matériaux. Les matériaux qui sont déposés là sont essentiellement ce qu'on appelle des matériaux 3.5, dans des filières phosphure d'indium, donc filière REN pour les télécommunications optiques. Et puis, nous avons une filière 3.5 sur silicium, où nous déposons des matériaux de type phosphure de gallium sur le silicium pour marier les matériaux qui ont les bonnes propriétés optoélectroniques d'émission de lumière et d'absorption de lumière sur le silicium qui est le matériau de référence pour la microélectronique. Donc on marie l'optoélectronique avec la microélectronique directement au niveau de l'élaboration du matériau et des hétérostructures matériaux. Ces appareils peuvent paraître un petit peu compliqués parce qu'ils fonctionnent sous vide. Ils sont parfaitement hermétiques. Il y a beaucoup de systèmes de pompes de manière à fonctionner sous vide. C'est ce qu'on entend, oui. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi des cellules où chaque cellule contient un matériau. Et bien, on va, à partir de ces cellules, déposer les matériaux choisis en couche mince.
Voilà, à ma droite, une petite fiche avec marqué « À partir de cette limite, le port d'une blouse avec capuche et de surchaussures est obligatoire. » Donc si j'entre là comme ça, tel que je suis habillé avec mes tennis et mon manteau qui a pris la grêle, je risque quoi ?
Vous risquez de vous faire sortir immédiatement, rapidement, de cet environnement.
Sachez que le Labomatique est disponible en différé sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.